Europa Voice numéro 76 déjà, et comme à chaque fois je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Alors on va parler de sujets très importants aujourd'hui, la vaccination et le plan vaccinal européen, mais ce sera après la Chine, puisque l'Union Européenne a pris des mesures contre la Chine, et c'est tout autour de la situation des Ouïghours. Expliquez-nous un petit peu tout ça, parce que ça fait un petit moment que c'était pas arrivé, donc c'est vraiment quelque chose de très 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 important du point de vue de la diplomatie européenne.
Alors effectivement, Christophe, on parle de la relation de l'Union européenne avec la Chine par rapport à cette question de la minorité ouïghour, donc minorité musulmane en Chine, et une décision qui a été prise ce lundi par les ministres des Affaires étrangères européennes pour réagir justement face au sort qui est réservé aux Ouïghours, avec des sanctions diplomatique, un gel des avoirs de 4 responsables chinois et une interdiction de séjour sur les territoires de l'Union européenne. Alors ça peut paraître anecdotique comme ça, mais en fait c'est une sanction qui n'est pas que symbolique, hein, ça montre véritablement la prise au sérieux de l'Union européenne par rapport à cette question du traitement de la minorité ouïghour par le régime communiste chinois et par la majorité chinoise.
Alors on en parlait juste en ouverture de ce programme, c'est pas souvent que l'Union européenne a pris des sanctions contre certains pays, encore moins souvent envers la Chine. Je crois que ça date de 1989, la dernière fois qu'il y avait eu une vraie sanction envers la Chine d'un point de vue européen.
Effectivement Christophe, ces sanctions contre le régime chinois, c'est la première fois depuis 1989 et après les événements de Tiananmen que l'Union européenne a sanctionné la Chine. Donc ça montre aussi une étape qui a été franchie dans la relation entre la Chine et l'Union européenne. On sait, hein, les relations ont parfois été tendues, hein. Il y a des négociations en ce moment entre les deux entités qui sont déjà assez fragiles, hein. On parle d'un accord sur les investissements dont, très franchement, même au-delà de cet épisode ouïghour, on n'était pas sûr de la finalisation. Et donc, on le voit bien, hein, c'est historique, hein, c'est un événement historique. C'est de nouveau un durcissement des relations par rapport à cette question de la minorité ouïghour. Mais du côté chinois, Christophe, on n'a pas tardé non plus à réagir. Vraiment, hein, œil pour œil, dent pour dent, la Chine a appliqué la loi du talion. Il y a eu ces sanctions annoncées par les autorités européennes en ce début de semaine. Et directement à la suite de la décision de l'Union européenne d'inscrire donc ces 4 dirigeants et une entité de la région chinoise du Xinjiang, donc là où sont les minorités ouïghours, sur une liste de sanctions pour les violations des droits de l'homme, ben, immédiatement, le régime communiste chinois a pris des mesures de rétorsion à l'encontre d'un certain nombre de personnalités de l'Union européenne, dont peut-être celui qui est le plus médiatique, en tout cas le plus connu de notre audience française, l'eurodéputé français Raphaël Glucksmann, fils de André Glucksmann, et vice-président de la sous-commission des droits de l'homme au Parlement européen, qui, Christophe, depuis quelques mois, quelques années, est vraiment à la tête de ce combat, j'allais dire, pour dénoncer ces violations de la minorité ouïghour en Chine.
Est-ce que tout ça, ça aussi, la réponse ça va être oui, mais on va détailler ça, c'est de comprendre les enjeux diplomatiques à travers la planète, parce qu'on sait que l'Europe a un certain set d'alliés et les Chinois ont un certain set d'alliés, donc forcément les Américains, les Russes, où se joue ce débat diplomatique. Et j'allais poser la question, quid de l'Australie? Est-ce que l'Australie prend part dans cette espèce de débat, de combat qui se passe entre la Chine et l'Europe?
Alors, pour répondre à cette question, on va juste faire d'abord un petit pas en arrière pour bien comprendre, hein, quel est le sujet. Il y a 3 accusations principales qui sont faites par l'Union européenne au régime communiste chinois. Il y a le fait d'interner, en fait, dans des camps une partie de la population et de les soumettre à la fois du travail forcé et des campagnes de stérilisation. Et ce qui est intéressant, Christophe, déjà, c'est que la Chine ne dément pas catégoriquement les 3 accusations. Elle dément effectivement l'organisation d'un travail forcé à l'intérieur de ces camps et, bien sûr, les campagnes de stérilisation, mais elle acte le fait que effectivement une minorité ouïghour, en dépit des traités internationaux, est interné dans des camps. Sauf que la justification pour le régime chinois, c'est de dire que ça permet d'isoler des éléments terroristes perturbateurs au sein même de la minorité ouïghour. Donc déjà, ça c'est important. C'est-à-dire que quand on fait des relations internationales, souvent ce qui coince, c'est le fait qu'on n'est pas dans 2 paradigmes identiques. Hein. Si je simplifie un peu les questions autour du terrorisme, on a longtemps on a longtemps buté sur le fait que, en fait, par exemple, le rapport à la vie, le fait de considérer la valeur d'une vie humaine, ben, n'était pas la même pour des démocraties occidentales qu'elle l'était pour certains régimes qui considéraient que la mort en martyr était quelque chose d'important. Donc là, c'est aussi important de rappeler que on est dans des paradigmes où, pour la Chine, ben, il n'y a pas de problème d'isoler une partie de sa population et d'isoler beaucoup plus de monde que de personnes suspectées d'appartenir à une organisation terroriste ou à des éléments terroristes. Donc ça, c'est le premier élément. Après, sur la question de l'impact de cette relation tendue entre l'Union européenne et la Chine à d'autres acteurs de la planète, et après on viendra sur la question de l'Australie, oui, ça a des impacts, ça a deux impacts. D'abord, c'est une décision qui montre que l'Union européenne est en train de se construire aussi une identité politique. Hein. Ça permet d'affirmer, peut-être après l'épisode du Brexit où on a vu un bloc uni face au Royaume-Uni, ça permet d'afficher aussi une unité politique, chose qu'on a souvent reproché à l'Europe de ne pas avoir. Donc ça permet de solidifier cette unité politique. Mais l'Union européenne n'est pas seule, hein, à la manœuvre, puisqu'elle a des alliés de taille, notamment les États-Unis et le Canada. Et pour les États-Unis, c'est aussi une véritable nouvelle impulsion de l'administration Biden, parce qu'on pensait qu'il allait avoir un infléchissement après la présidence de Trump, et en fait pas du tout. Joe Biden continue aussi dans cette relation tendue avec la Chine. Après, et c'est là où on va venir à l'Australie, c'est que la Chine, se sentant isolée, bah, évidemment se tourne aussi vers la Russie. Et c'est là où on voit que ce n'est pas simplement au niveau de la relation Union européenne-Chine que l'épisode ouïghour va avoir des conséquences, c'est sur toutes les constructions politiques qui peuvent aujourd'hui peser dans la marge du monde. Moscou, en fait, soutient Pékin dans cette affaire des Ouïghours, parce que ce contentieux entre l'Union européenne et la Chine est intervenu le jour même où le ministre russe des Affaires étrangères était, lui, en déplacement officiel en Chine, et il a d'ailleurs qualifié les sanctions, notamment les sanctions américaines, d'imprudentes, et il a clairement exhorté Pékin à coopérer davantage avec la Russie qu'avec le bloc européen. Donc on le voit, hein, c'est à chaque fois que vous avez une tension dans les relations internationales entre deux acteurs, ben vous avez d'autres acteurs qui frappent à la porte. Et puis là, on le voit, hein, c'est la Russie qui propose à la Chine de se tourner davantage vers elle. Pour une autre raison aussi, Christophe, c'est que la Russie elle-même avait dû subir l'ire de l'Union européenne sur certains dossiers, dont le dossier tchétchène. Donc si vous voulez, la Russie a aussi l'impression que l'Union européenne reproduit son rôle de tenseur professoral avec la Chine, de la même manière qu'elle l'avait fait avec la Russie.
Et l'Australie dans tout ça ?
Alors, et l'Australie dans tout ça, Christophe, alors, sur ce dossier-là, en tout cas, pour l'instant, l'Australie est en retrait, hein, ça les concerne pas. Mais ce qui est vrai, encore une fois, c'est que le fait que la Chine se retrouve de plus en plus isolée sur cette scène internationale, ça va donner aussi des opportunités à l'Australie, au sein de la région Pacifique Sud notamment, de développer, de diversifier ses relations avec d'autres entités, finalement de prendre aussi moins de risques, parce qu'il y a énormément d'investissements bilatéraux entre la Chine et l'Australie, et on le sait, hein, une des prérogatives et une des volontés de l'Australie, c'est de véritablement créer un noyau de coopération, notamment économique, pour dépendre beaucoup moins des investissements étrangers chinois. Et donc, indirectement, Christophe, cet épisode, ça conforte la position australienne aussi de travailler à cet axe Paris, New Delhi, Canberra, l'Indo-Pacifique, tous ces États du Sud-Pacifique avec lesquels l'Australie veut déplacer un petit peu le noyau classique bilatéral des relations entre la Chine et l'Australie elle-même.
Absolument. Est-ce que derrière tout ça, il y a aussi, et on va faire une transition là-dessus, mais il y a aussi un fond de Covid, un fond de relations. Est-ce qu'on peut, en termes de relations internationales, vraiment séparer les choses, ou est-ce que derrière, il y a quand même tout ce qui s'est passé autour du Covid, et d'où vient le Covid, et est-ce que tout ça, il y a aussi une sorte de point sur la table vers l'attitude chinoise en général, et avec un focus là-dessus, ou pas du tout?
Alors, votre question sous-jacente, Christophe, c'est est-ce que avertissement, ces sanctions de l'Union européenne, elles sont prises à un moment à un moment calendaire au hasard, j'allais dire, ou est-ce qu'elles sont prises à un moment où...
Ouais, est-ce qu'il y a vraiment du hasard dans la diplomatie ?
Alors, ça fait longtemps qu'il y a des pressions au sein de l'Union européenne pour prendre ces sanctions par rapport à la Chine, en tout cas d'afficher une position plus ferme. Ben non, ce qui est vrai aussi, c'est que je ne sais pas, et je serais bien incapable de vous dire s'il y a une relation directe entre l'attitude très agressive de la Russie pour proposer son vaccin et de la Chine pour proposer son vaccin, notamment à certains pays des blocs de l'Est. Et on avait parlé même des pays n'appartenant pas à l'Union européenne. Hein. Vous vous rappelez, on avait mentionné l'exemple de l'Ukraine. Hein. On l'avait dit, une des faiblesses de l'Union européenne dans cette campagne vaccinale d'approvisionnement de vaccins, c'est de ne pas être capable aussi de se tourner vers ses voisins directs, l'Ukraine en tête, et donc que l'Ukraine, alors qu'on aurait pu lui tendre la main, elle se tourne vers la Russie pour son organisation logistique, la campagne vaccinale, etc. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'encore une fois, la nature a horreur du vide, et c'est vrai aussi en relation diplomatique. Si vous avez un vide, si vous avez un besoin d'un pays, vous avez forcément quelqu'un qui tape à la porte, ou en tout cas, vous avez une autre proposition. Et le fait que l'Union européenne ait été absente de ces négociations-là avec ces pays, alors... Après, il y a plein de raisons. La campagne est déjà assez compliquée en Europe elle-même, mais il ne va pas rien se passer. C'est que vous allez avoir, pour l'exemple encore une fois, de l'Ukraine, mais même de certains pays appartenant à l'Union européenne plus à l'est de l'Europe, vous allez avoir le voisin chinois qui, lui, va intervenir, va faire plus d'interventionnisme que ce qu'on attendait parce qu'on pensait qu'il y avait un bloc politique cohérent, en l'occurrence l'Union européenne. Donc, je ne sais pas s'il y a un lien direct de cause à effet, mais encore une fois, vous avez des signaux qui vous montrent dans ces relations diplomatiques que ce ne sont jamais des jeux neutres. Vous avez toujours dans ces tensions entre pays, d'autres pays qui vont prendre la place, ou en tout cas d'autres pays qui vont se substituer à un manque ou à quelque chose auquel, en l'occurrence, on attendait l'Union européenne.
On va parler maintenant de l'Europe d'un point de vue Covid, d'un point de vue vaccinal et cette campagne de vaccination qui évolue dans certains pays, traîne les pieds un petit peu ailleurs. En tout cas, il y a vraiment deux poids, deux mesures à travers toute l'Europe. On a du mal à y voir clair parce que c'est très compliqué de tirer le bien du mal de ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Europe. La situation vaccinale en Europe, on en est où, Nathanaël ? C'est un peu compliqué tout ça.
Alors, ça a l'air compliqué, Christophe, la situation vaccinale en Europe, mais en fait, on a quand même des grands principes de cette stratégie vaccinale. Le premier élément qu'il faut rappeler, c'est que l'Union européenne a élaboré sa stratégie vaccinale, pas en ce début d'année, mais dès juin 2020, à un moment où déjà plusieurs laboratoires s'étaient lancés dans la recherche d'un vaccin et d'une manière d'immuniser le plus grand nombre de citoyens européens. Donc, la stratégie vaccinale, déjà, ça fait 9 mois qu'elle a été élaborée et qu'elle est pensée par l'Union européenne. Ce qui s'était passé alors à ce moment-là, c'est que l'Union européenne avait signé des contrats avec 6 laboratoires pour un montant avoisinant les 2,75 milliards de doses au total. Et l'idée de l'Europe à ce moment-là, c'est de pré-réserver au moins une partie des vaccins nécessaires à la vaccination de sa population européenne.
Donc mettre le pied à l'étrier de certains pays qui auraient peut-être eu plus de mal dans la négociation, dans le poids, dans la balance, de dire, ok, nous en tant qu'Européens, on vous met le pied à l'étrier, mais il faut aussi mettre du vôtre.
Alors oui, mais c'est surtout en fait des grands principes qui régissent cette stratégie vaccinale et cette stratégie d'achat, parce que en fait, l'idée c'est quoi ? C'est que l'Europe négocie un stock total de vaccins. C'était ce qu'on avait reproché, hein. Encore une fois, on le rappelle, hein, mais répétition vaut pédagogie, on avait beaucoup à reprocher à l'Europe d'avoir raté la gestion du Covid début d'année dernière, mais encore une fois, c'était nouveau pour tout le monde et nouveau pour l'Union européenne. Par contre, on s'était dit, l'Union européenne avait bien réagi, en tout cas, semblait être coordonnée dans la mise en place de cette stratégie vaccinale. Donc c'est l'achat d'un stock au niveau de l'ensemble de l'Union européenne. Et après, c'est une répartition entre les États membres au prorata de la population de chaque pays. Si on prend l'exemple français, c'est en fait 15% du stock total qui sera réservé à la France, parce que la France représente 15% à peu près de la population de l'Union européenne. Donc, vous voyez, on a quand même, peut-être avant d'entrer dans les critiques et dans ce qui fonctionne pas, on a quand même de la part de l'Union européenne une stratégie vaccinale qui est mise en place. Élément aussi intéressant sur cette stratégie vaccinale, c'est qu'elle comprend aussi un volet qu'on peut qualifier de mondial ou de global. Pourquoi le rational, en mauvais français ou en bon anglais, il est intéressant derrière ça. C'est de se dire, la Commission avait en fait considéré que, de toute façon, il était improductif d'atteindre l'immunité collective simplement en Europe parce que la pandémie, elle n'a pas de frontières. Et on l'a vu, hein, c'était un des éléments qui était extrêmement crispant dans cette stratégie vaccinale européenne, c'était la question des frontières. Et donc l'Europe avait aussi anticipé cette question-là avec les frontières extérieures, de se dire il y a une partie aussi de ces vaccins qui vont être produits, qui vont être achetés par l'Europe, destinés notamment à des pays moins développés. Donc vous voyez, déjà pour quand même introduire le propos, on a une stratégie vaccinale qui sur le papier avait l'air cohérente. Je passe toutes les questions de contrôle scientifique, de validation juridique des vaccins, parce que là on va rentrer dans des détails un peu plus peut-être compliqués, plus technocratiques, mais en tout cas il y a une stratégie vaccinale qui est mise en place.
Mais aujourd'hui, on en est où? Parce que si on regarde le développement de l'administration après de ces vaccins dans chaque pays, l'Allemagne a une certaine stratégie pour déployer ses vaccins, la France en a une autre qui change. On parle maintenant de vaccinodrome en France, alors qu'il en était hors de question avant de faire des vaccinodromes en France. Avant, il y avait au tout début, une des premières vaccinations, il y avait un feuillet de 45 pages, je crois, pour pouvoir administrer le vaccin. Ça a été réduit. Maintenant, on va presque le faire dans les supermarchés. Enfin. Tout ça évolue peut-être dans le bon sens, mais on sent que est-ce qu'il y a quand même du tâtonnement, est-ce qu'on apprend au fur et à mesure, est-ce qu'on apprend les uns des autres aussi, est-ce que c'est ça qui est important, est-ce qu'on apprend des succès des uns des autres au sein même de l'Europe?
Alors je crois qu'il y a toujours Christophe du côté de l'Europe. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait en Europe, l'Union européenne, enfin les règles de l'Union européenne, elles sont faites, vous voyez, elles peuvent paraître plus contraignantes que ce qu'elles devraient être, mais en fait comme dans toute construction politique, vous êtes obligé de normer, d'avoir un respect des normes, une hiérarchie des normes et des grands principes sur lesquels vous devez fonder après et déployer vos politiques. La question, c'est de comparer ce qui est comparable. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'on a vu ces dernières semaines dans les médias français, moi, deux personnalités politiques que pour le coup, je trouve assez bonnes et assez même bonnes dans leur communication politique du vaccin, c'est le commissaire européen Thierry Breton et le ministre en charge des affaires européennes Clément Beaune. Et ces deux personnalités, elles ont, face à la question de la campagne de vaccination israélienne notamment, elles ont un peu botté en touche. Au lieu d'expliquer simplement que c'est difficile aussi de comparer des choses qui ne sont pas comparables entre un pays isolé au Proche-Orient, qui a une histoire complètement différente des pays de la construction urbaine, au lieu simplement peut-être d'essayer de mettre en exergue ces différences et puis de pointer les bonnes choses, on est rentré dans des justifications de non-respect des données personnelles des personnes qui ont accepté de se faire vacciner, etc. Choses qui ne sont pas vraiment vraies. Hein. On le sait, hein, les données, même en Israël, fournies à Pfizer, elles sont anonymisées. Ce qui fait qu'il y a deux éléments qui font que la campagne de vaccination, pour prendre l'exemple israélien, ont véritablement fonctionné. Je mets de côté l'aspect culturel du pays, le fait que c'est un pays qui est souvent en guerre, donc avec des notions d'organisation dans l'urgence qui sont différentes, par exemple, de la France et de l'Europe. Donc je mets ça de côté, mais il y a deux éléments. Il y a d'abord, en fait, on sait que Netanyahou, le Premier ministre israélien, en campagne d'ailleurs actuellement pour sa réélection, il a fait le forcing auprès des dirigeants de Pfizer pour avoir le vaccin et il a mis le prix à payer pour l'avoir. Donc, je veux dire, il y a pas de c'est un fait. Ce serait assez juste de rappeler juste ce fait. Et puis le deuxième élément aussi qui est simple et qui explique des différences, c'est que en échange de l'accès à ces vaccins et d'un certain nombre de doses réservées à Israël, mais payées aussi à prix fort, c'est le fait que Pfizer après pourra utiliser ces données pour faire des calculs, pour avoir des retours d'expérience, un suivi, etc., mais données anonymisées. Vous voyez ? Donc, en fait, ce qui est surprenant, c'est que face à certains ralentissements ou ratages de campagnes de vaccination en Europe, on cherche à trouver dans le succès d'exemples étrangers des éléments qui sont pas tout à fait vrais. Donc c'est là, si vous voulez, on revient à cette question de la de la communication en politique, c'est un élément qui est important parce que, encore une fois, tout le monde navigue un peu à vue avec cette histoire de Covid. Et personne n'a reproché à l'Union européenne au moment de la première vague de ne pas être prête. Ou en tout cas, c'était une critique qui était peu partagée parce que personne n'était prêt, personne ne voyait ça arriver en Australie, en France, en Israël. Maintenant, on sait. Maintenant, on est un an après, la première vague de Covid. Donc la question, ce n'est pas qu'on ne sait pas, c'est la question, c'est avec ce qu'on sait, avec les moyens qu'on a, comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on organise et comment on s'assure de protéger sa population.
Mais pourquoi les hommes politiques, et je vais mettre, bon, j'ai pas tout su, mais je vais mettre par exemple Emmanuel Macron dans ce lot, continuent, même ayant appris qu'on ne savait pas grand-chose et qu'on était toujours en train d'apprendre l'évolution de cette pandémie, continuent à dire, on aura vacciné tant de personnes pour telle date, le fameux quoi qu'il en coûte. On sent qu'il y a encore une communication qui se base, on sait qu'il y a une élection qui arrive en France qui va dominer l'actualité européenne et française, bien entendu, dans le courant de l'année prochaine. Mais aujourd'hui, il y a encore l'exécutif qui dit on aura vacciné tant de personnes pour telle date, et après, on se rend compte que c'est pas possible. Donc, du coup, c'est un peu donner le bâton pour se faire taper. Et est-ce que c'est pas là que la communication politique devient un problème?
Alors, je crois, Christophe, qu'on a, moi, mon analyse de l'aspect de la communication politique, je crois qu'on a en fait péché, finalement. Par là, on donne l'impression souvent de trop en faire. Je m'explique. Pour moi, la communication politique, c'est pas de la communication. Ça doit être de la politique. Et donc, en fait, quand vous organisez une communication publique ou slash politique, ça doit avoir, il doit y avoir un projet politique derrière. Et le problème, c'est que quand il n'y a pas de projet politique derrière, vous justement, vous donnez cette impression de ne l'utiliser que comme un gadget. On le voit encore avec le dernier slogan qui opposait ce qu'on doit faire dehors et ce qu'on doit faire à l'intérieur, qui utilisait beaucoup le jeu, qui est des fois un petit peu perçu comme infantilisant. Il faut absolument que les messages politiques derrière les communications mises en place par l'exécutif, ils aient un objectif politique.
Vous pensez à Big Flo et ce que Emmanuel Macron a fait autour de cette communication?
Alors,
également
vous parlez des influenceurs. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse par rapport au fait d'utiliser des influenceurs. Ce qu'on constate, c'est que le gouvernement, c'est un des gouvernements, et d'ailleurs, je fais un peu d'autopromotion, j'avais donné une interview à nos confrères du OFF sur cette question-là, c'est un des gouvernements qui utilise le plus les influenceurs pour communiquer. Soit, ok, c'est un fait. La question, c'est pas de savoir si c'est bien ou c'est pas bien. La question, c'est de savoir, il y a quel but politique derrière ça. Est-ce que c'est simplement un gadget ou est-ce qu'il y a véritablement une intention politique? Et pour moi, encore une fois, je le répète, je pense que c'est pour l'instant, c'est là où on pêche le plus. C'est-à-dire que on devrait faire de cette communication un véritable outil politique parce que sinon, on donne juste l'impression de trop en faire. On donne juste l'impression d'en faire à côté. Et ça marche pour tout, hein. Ça marche pour ces exemples d'influenceurs, mais ça marche aussi pour ces exemples de vaccinodrome. Je trouve qu'on est dans une séquence complètement ubuesque où il y a 2 mois, il était encore hors de question d'avoir des grands vaccinodromes. Et puis là, on a le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui nous dit « oui, on aura des grands centres, appelez-les vaccinodromes comme vous voulez, parce que la situation a évolué ». Bon, encore une fois, on se focalise sur le mot « vaccinodrome ». Sur ce que ça implique, la question c'est pas ça. La question c'est de savoir, dans la séquence politique et la séquence sanitaire qu'on vit actuellement, comment est-ce qu'on communique sur le fait qu'à partir du mois d'avril, on aura en France des grands centres où on va pouvoir appliquer une campagne de vaccination massive. Pourquoi en avril et pas avant? Qu'est-ce que ça implique dans les professionnels de santé habilités à vacciner, hein? Je pense aux vétérinaires, je pense aux biologistes, je pense aux pharmaciens, à des pompiers qui ont été formés aussi à ça. Voilà, vous voyez, encore une fois, on se focalise trop, et je trouve que l'exécutif se focalise trop sur ces questions, des fois qui paraissent un peu gadgets, alors qu'elles devraient servir une intention politique dans une campagne de vaccination. Encore une fois, personne ne reprochera au gouvernement de ne pas savoir ce qu'on ne sait pas. Ce qu'on ne sait pas, on ne le sait pas. Le virus, il y a un an, personne ne le savait, personne ne reprochait ça au gouvernement de ne pas savoir. Ce qu'on reproche, c'est quand on sait et qu'on ne met pas en œuvre ce qu'il faut pour qu'il y ait une intention politique qui a des impacts dans le dans la vie des gens. Et ça ce qui est beau aussi avec cette communication politique, c'est qu'il y a toujours moyen de se rattraper. C'est qu'effectivement, alors on peut penser qu'il y a eu un ralentissement au démarrage de la campagne de vaccination. Ok, on se dit maintenant, on a un objectif politique qui est 10 millions de premières injections au 15 avril. Ok, c'est ce qui est annoncé par l'exécutif. Qu'est-ce qu'on va mettre en place autour?
Pour y arriver.
Pour y arriver, exactement. Mmh. Donc comme ça, la communication qui sera faite, elle ne sera pas perçue comme un gadget, elle sera perçue comme une communication politique.
Mais vous êtes d'accord avec moi qu'en France... Je fais pas l'apologie de la France, mais en France, on a du mal à joindre les deux bouts. On a du mal à joindre cette communication politique et les faits. On le voit aujourd'hui même dans la politique de confinement. On va reconfiner dur, ça va changer la vie des gens. Et puis en réalité, on a l'impression que tout va mieux. Donc entre la réalité de la communication politique par l'exécutif et ce qui se passe réellement sur le terrain, on a l'impression que c'est deux mondes.
Conjuguer ça, c'est compliqué. Je pense sur le reconfinement ou le déreconfinement ou le redéconfinement.
Même nous, on s'y perd dans la terminologie.
Non, mais je prends juste un exemple qui moi, pour faire la comparaison avec l'Australie, hein, puisqu'on émet d'SBS ici à Melbourne, qui me semble intéressant. C'est que en Australie, ce qui s'était passé pour que le confinement soit respecté, je parle là de Melbourne, quand il y avait une conférence de presse et quand il y avait une évolution des règles, il y avait un détail mais incroyable des activités qui étaient permises et des activités qui étaient non permises. Okay ? Et lors des conférences de presse, s'il y avait des questions sur des activités non mentionnées, elles étaient rajoutées à la liste des choses permises ou pas permises. Juste pour que notre audience française comprenne, c'est-à-dire qu'on allait chaque activité, la pêche par exemple, le sport en salle. En soi, si c'est ne vu que comme ça, on se dit, mais ce n'est que du gadget, c'est infantilisant, c'est une privation de liberté. Et ces critiques-là, elles sont fondées. Par contre, si on explique derrière ça le bien fondé, si on donne cette liste très détaillée, mais qu'on explique le bien fondé, c'est de dire que la pêche ou que des activités en plein air, en fait, les risques sont moindres parce qu'elles se font seules. Parce que quand vous faites du paddle ou vous faites du kitesurf ou j'en sais rien, ça se fait seul, ça se fait en mer, vous êtes à 10 mètres de personne, etc. Quand un sport en salle, vous êtes enfermé, vous êtes... Et vous voyez, et en fait, on est passé, je me rappelle très bien, à Melbourne, de critiques de ces politiques un peu infantilisantes et de ces listes, hein, vraiment, c'était une liste, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, à très bien, ok, on comprend.
On sait où on en est.
On sait exactement, on sait où on en est. Et puis, il y a aussi un gain politique derrière ça. C'est que quand ça va mieux et quand ça va aller mieux, eh ben, à chaque fois, vous allez enlever une activité interdite et puis les gens vont avoir l'impression de recouvrer finalement un peu de liberté. Alors que là, en France, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on navigue un peu entre les deux. On le voit même dans les attestations. On est un peu dans cet entre-deux où on a l'impression que c'est très compliqué, qu'il y a beaucoup de raisons, mais donc alors il faut en rajouter d'autres, mais on comprend pas très bien. Et je trouve que c'est ça qui est un peu compliqué. C'est le fait de ne pas trancher. Soit on fait une interdiction qui est totale, qui est catégorique. C'est, on a le droit, on n'a pas le droit de sortir. Et il y a quatre raisons principales. C'est ce qui avait été fait en Australie. Vous devez aller chez votre médecin. Vous avez une urgence, vous êtes sur une liste de travail essentielle et puis une quatrième catégorie, ou bien vous faites quelque chose de très détaillé. Mais encore une fois, le problème, c'est que si votre liste, c'est simplement un gadget et qu'il n'y a pas d'intention politique, moi, je suis sûr qu'en Australie, l'intention politique, c'était de dire, on va dans le détail, on va vers beaucoup de privations, on va se prendre beaucoup de critiques au début. Et rappelez-vous, hein, le premier ministre de Victoria avait dit, les questions des libertés publiques au moment d'une pandémie, ce n'est pas la première des priorités. C'est contestable, vous pouvez avoir un avis dessus. Mais à partir du moment où c'est assumé, bah, vous voyez, c'est là où vous avez jeté votre ancre et c'est autour de cette ancre que vous allez naviguer. En France, encore une fois, là, ça ne passerait pas de dire que les libertés publiques ne sont pas la priorité quand il y a une pandémie.
Absolument.
Ça ne passerait absolument pas. Par contre, il faut aussi trouver un narratif, une narration autour de laquelle, après, vous allez pouvoir construire votre construction politique. Et encore une fois, l'espoir dans ça, c'est que c'est jamais trop tard. Et que si là, à partir d'avril, on rentre dans une phase de vaccination massive, de vaccinodrome, on veut accélérer, etc., c'est encore pas trop tard pour construire une séquence politique avec, encore une fois, une communication politique qui n'est pas de la communication, qui est de la politique.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre, Christophe.
Merci, Nathanaël.
Merci beaucoup.